Bienveillance, substantif féminin évoquant une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Synonyme, indulgence, bonté, aller savoir, la charité, ou peut-être même un peu de pitié. La gamine, elle déteste ça, leur bienveillance, elle n'en veut pas. Elle voit quand elle est invitée chez des copines bien plus friquées. Elle voit leur mère leur chuchoter qu'il faut aussi donner des jouets à la gamine, des argentés. Elle voit ces femmes se rengorger, étouffées de joie dans leur collier. Voudrait qu'on leur tresse des lauriers pour tant de générosité. Elle veut la leur faire avaler cette foutue sacrée satanée bienveillance faite pour lui rappeler que si elle est là, c'est une chance et qu'elle ne pourra pas rester. Bientôt les portes vont se refermer, bientôt ce monde va lui tourner le dos. Elle tourne les talons et file droit vers la maison. La mulatière, c'est son quartier, c'est populaire. À l'époque, on dit prolétaire. La LVC sur le palier, là, le petit deux pieds s'étriqué, la tête haute, les dents serrées. Se jure qu'un jour, elle va se tirer, monter à Paris, capitale, mettre les voiles et arracher une vie qui n'était pas pour elle. On lui disait, trop belle pour toi. Elle répondait, ben, on verra. Un, deux, trois soleils, me voilà. Là-bas, elle ferait de ses fêtes des fêtes à en tourner la tête et danser, danser, prend ta revanche sur les faux culs, leur bienveillance. Avec elle, tous les éclopés, les cabossés, les fatigués, les bornes, les sourds, les mutilés, les cassés, les fous, les timbrés. Elle leur ferait la courte échelle pour les hisser là-haut, là-haut, d'où il paraît que tout est plus beau. Est-ce que les jurés, un soir d'hiver, promis cracher, croix de bois, croix de fer, si elle ment, elle va en enfer, vous savez le pire, bah, elle l'a fait.
France Inter. Julia Foyce. Unique en son genre.
C'est l'histoire de la mère Christine. Elle tient un bistrot dans un quartier de Lyon, coincé entre le canal et le fleuve, à la mulatière. Elle est persuadée qu'on a assassiné sa fille. Elle mène une enquête très personnelle. Parmi les clients ou les suspects, il y a le Riri, qui a la manie de se foutre à l'eau. Le mignot qui n'en met pas dans son vin. La petite Gigi, à qui on en met plein la grenadine.
Et de la grenadine, vous en avez bu, Myriam Boyer, bonsoir.
Bonsoir. Oh oui.
Grenadine offerte par votre père parce que vous aviez fait rigoler la galerie alors qu'il vous emmenait faire la tournée des bars. Votre père, le Riri, la mulatière, votre quartier. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de La Mère Christine, film que vous avez produit et réalisé en 98, un film qui dit beaucoup, beaucoup de vous. Qui dit quoi, surtout, pour vous?
Tout. Tout. J'ai eu envie vraiment de... C'est pour cette raison que j'ai réalisé. C'était parce que je voulais mettre des images sur ma vie, justement. Et alors, je l'ai fait d'une manière, une fiction, mais qui est quand même très, très, très proche de la réalité. Et c'est un film qui compte pour moi, parce que j'ai tout mis, l'argent, tout. J'y ai tout perdu, mais pas complètement, en tous les cas, pour moi. J'en suis très, 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 très fière.
C'est une façon aussi de rendre hommage à ces gens qui vous entouraient, ces gens qu'on ne voit pas ou dont on parle peu.
Voilà, c'est pour ça que je voulais faire le film. Ouais. C'est parce que je trouvais que quand on en parle, c'était pas ce que j'avais vécu. Et je voulais vraiment montrer ce qu'étaient ces gens, ce qu'on pouvait vivre à ce moment-là. Puis c'est vrai que c'est les années 50 quand même. Ouais. Donc il y a plein de choses, même par rapport à la Berthe, à ma mère. Parce que finalement, la mère Christine, c'est ma mère. Mm-hmm. Mais elle n'a jamais tenu un bistrot. Mm-hmm. C'est sa solitude. J'ai parlé de sa solitude. Chaque personnage en fait est décalé, mais ils ont tous existé dans ma vie, dans ma tête, enfin voilà. Et donc c'est vrai que c'est un film très 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 important. Avant le livre, puisque c'est presque
c'est
20
ans même. Finalement.
Exactement.
Le théâtre de ma vie que vous publiez aux éditions du Seuil permet à tous ces personnages à nouveau de reprendre vie. Hein. Voilà. Cette écriture, elle est partie d'une pandémie, d'un rideau de théâtre qui se baisse, d'une pièce qui ne se joue pas, d'un temps que tout à coup vous avez.
Oui.
Pour regarder dans le rétro, pour regarder ce qu'était votre vie.
C'est ça.
Et pour
c'est
vous
vraiment
regarder
ça.
Vous aussi. Alors, si je vous tends ce miroir et que je vous demande d'observer votre reflet, prenez le temps qu'il vous faut.
Ça fait bizarre, hein.
Et vous me dites qui c'est... vous voyez, ce que vous voyez. Prenez vraiment le temps, je ne vous regarde pas, je
c'est
vous laisse
pas,
faire.
Ce n'est pas un moment où on se regarde hein, quand on vient parler de son livre. Alors, il faut que je dise ce que
dites-moi
je...
Dites-moi ce que vous voyez, dites-moi qui vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez dire à celles et ceux qui nous écoutent.
Bien... je crois que qu'en fait la gamine elle est pas loin.
C'est vrai.
Ouais. Et je crois que j'ai jamais lâché. Et quand je le vois, j'aime pas me regarder dans une glace. En fait, c'est peut-être une des fois où je me regarde pour me regarder, parce que d'habitude je me regarde pas.
Pourquoi ?
Je le fais pour faire quelque chose sur mon visage, ou c'est toujours côté pratique. Mais je me suis jamais regardée en me regardant depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, je me regardais dans la glace. Oui. Et j'aimais bien me regarder, et je m'aimais bien. Je me regardais pas pour me critiquer, je m'aimais bien. Et quand je me regarde là, je me dis, c'est bon. C'est bon. Je peux me regarder de la même manière, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps vraiment, je regarde pas.
Pourquoi cette coquetterie a disparu avec l'âge? Pourquoi petite vous regardiez et après moins?
Bien, je crois que j'aime mieux avoir mon visage dans ma tête que de le voir, parce qu'il est dans ma tête, je peux l'inventer, je peux le, alors que là, il est comme ça, et je peux que constater. C'est dommage de constater. Je trouve que c'est beaucoup mieux de vivre avec dans la tête comme on a envie de se voir.
Alors, celles et ceux qui nous suivent savent que c'est en général à ce moment-là que je demande à nos invités ce qui pourrait faire mauvais genre chez eux, c'est-à-dire le petite provocation du quotidien, leur façon de sauter dans les flaques. Alors vous, en préparant cette émission, vous nous avez répondu, alors ça, moi je m'en fous. Vous êtes totalement affranchi du regard des autres.
Ah mais à un point inimaginable. Ah mais à un point, alors vraiment, franchement, par rapport à ce qu'on peut penser, je m'en fous.
Et ça a toujours été le cas ?
J'ai bien l'impression, parce que le problème que j'ai, moi, il est à un autre niveau. J'ai un problème social. Je trimballe mon enfance, mais ça me prend par bouffée. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps. C'est tout d'un coup, je suis dans un endroit et ça me fait comme les goûters dont on a parlé au début. Et ça, tout d'un coup, ça me remonte.
C'est l'idée que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes finalement qu'une invitée qui restera pas longtemps.
Voilà.
Ici,
Et non seulement ça, mais j'ai toujours la sensation de mépris quelque part. Et il peut y avoir du mépris de quelqu'un avec quelque chose de qui a rien à voir. Et puis c'est sûrement pas méprisant, mais moi je peux le recevoir comme du mépris.
Mais ce qui est fou, c'est que vous avez, et vous le dites dans votre livre, vous l'écrivez, vous alignez les médailles, les décorations, les nominations, les prix de Molière, de nomination au César, etc. Et même au mariage de votre propre fils.
Oui.
Vous vous sentez mal à l'aise.
Oui, et pourtant, parce qu'on pourrait imaginer, je parle donc qu'il y avait des acteurs comme Dujardin, Cadmerade, etc. On pourrait croire que c'est quelque chose de professionnel. Pas du tout. J'avais tourné avec eux, j'avais fait donc un film avec Blier, avec Dujardin, c'était super. C'est pas, sur un plateau, j'ai pas de soucis.
Ouais.
Mais alors, pas de souci, vraiment, mais aucun. Je peux me retrouver en face de n'importe qui, je n'ai aucun problème. Mais dès que c'est en dehors, au mariage de mon fils, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était énorme, hein, c'était magnifique. Ouais. Justement, c'était tellement magnifique que il y avait quelque chose comme ça où j'étais décalée, je me sentais pas bien, je me sentais pas à ma place, et en même temps j'étais heureuse pour lui. J'étais très 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 heureuse pour lui. Ouais. En plus Lilou, sa femme, c'est vraiment comme ça, c'est une bouffée comme ça qui vous vient, et vous avez envie d'être dans un petit coin et de dire je trouve ça dommage, parce qu'il y a tellement de gens que j'ai dû rencontrer, où j'ai vécu sûrement des, et je suis complètement passée à côté parce que il y a cette espèce de c'est juste social, et ça je crois
de complexe, de peur, de...
c'est pas complexe, c'est plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus compliqué
profond.
Que ça
c'est pas une profond. Coquetterie, c'est ce que vous voulez dire.
Non,
c'est quelque chose de très
complexe, ni une coquetterie, ni c'est quelque chose de profondément social.
Ancré, ouais.
Et là, c'est sûrement la gamine où ça remonte, et toujours, j'ai jamais lâché, hein, quelque part. Comme je m'en suis servie dans mon travail, donc c'est un peu curieux, c'est un peu comme la peur ou comme le trac. Le tract, c'est quand on
a le
tract.
C'est aussi parce que vous avez su transformer ce matériau-là qui vous venait de votre enfance, que vous êtes aujourd'hui la comédienne que vous êtes. Vous allez nous le dire, on va la suivre, cette gamine, depuis les ruelles de la Mulatière jusqu'aux Amandiers, jusqu'à Nanterre, et on croisera Blier, on croisera Devers, Patrice Chéreau, Agnès Varda, et puis Coltès. Tant d'autres encore, et ça c'est Pomme, les séquoias.
Avant, la rivière a séché, avant que tout soit emporté.
froid.
Aussi poussée comme elle a pu en banlieue lyonnaise, elle aussi tenue par l'envie féroce de dire au monde qu'elle est là, elle aussi aujourd'hui encore travaillée par ce drôle de sentiment d'illégitimité. Peut-être qu'un jour vous la rencontrerez, Myriam Boyer, peut-être qu'un jour vous lui direz tiens bon, ça vaut le coup. Unique en votre genre, vous êtes notre invitée, vous êtes sur France Inter, bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Unique en son genre.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Nuit Blanche, nouvelle radiophonique de Jean Châtenay, avec Christian Allers, Laurence Weber, Jean-Marie Fertet, Daniel Lebrun, Jean Bollot, Jacques Ling, André Var.
Nous voici donc dans les années 50, dans le quartier populaire de la Croix-Rousse à Lyon. Vous écoutez Les Maîtres du Mystère sur la chaîne parisienne. Myriam Boyer, blottie dans les bras de votre mère, la Berthe. Vous avez peur, enfant. C'est ce que vous écrivez, ça revient souvent dans votre livre. Vous avez peur, mais pas seulement de ce que vous entendez là, à la radio. Cette peur, elle vient d'où ?
Elle vient de la violence que j'ai pu connaître petite, donc c'est des scènes qui vous marquent à vie et qui vous rendent très très vulnérable, j'avais peur de la musique là, on vient d'entendre là. Oui, j'avais peur de cette musique. J'avais peur et en même temps attirée. On regardait la radio à l'époque. On n'écoutait pas, on la regardait. On l'écoutait aussi, mais c'était. Ouais. Donc on était tous autour comme ça. Mon frère il était carrément dessus et on écoutait ça. Et je me souviens que je mélangeais ce que j'entendais avec ce que je vivais. J'avais peur.
Oui. Alors quand vous dites tout, c'est votre frère Marc, 11 ans de plus que vous, Serge, 3 ans de plus. Il y a aussi le Riri, votre père, dont on va parler, mais il y a d'abord la Berthe. Ma Berthe, écrivez-vous avec tellement d'amour. On le sent, hein, cet amour-là pour votre mère, cet amour immense entre chaque ligne de votre livre. Une femme incroyable de force et de courage. Mais qu'est-ce que vous voudriez, vous, qu'on sache d'elle avant tout aujourd'hui que vous nous parlez d'elle ? Vous voudriez qu'on sache quoi ?
Mais elle nous a sauvés en partant à l'époque, en divorçant dans les années 50, c'est partir avec ses trois mômes sous le bras et sa machine à coudre. Elle nous a sauvés. Et mon frère aîné, donc, était plus grand, il avait 14 ans à l'époque, donc c'est peut-être celui qui a pas pu s'en sortir, le frère aîné. Mais mon autre frère et moi, on est devenus ce qu'on est devenus dans la vie parce qu'un jour, elle est partie, elle a eu le courage de ça, et c'était pas évident.
Hein. Elle est partie, elle a porté plainte plusieurs fois au commissariat pour violence conjugale, à chaque fois on lui rayonnait.
Bien sûr.
Mais elle y retourne.
Ah mais elle a pas lâché, ouais. Elle a pas lâché et elle m'a élevée en me parlant beaucoup de tout ça et en me disant il faut être indépendante, il faut que tu aies un métier, faut dire merde aux hommes.
Enfin, elle vous a appris à vous méfier de la violence masculine. Est-ce que vous diriez avec le recul trop? Est-ce que ça vous a donné une image des hommes qui était trop
Non, elle n'a pas réussi, hein. Apparemment, ouais. Elle n'a pas réussi. C'est pour ça que j'ai dit elle m'a élevée comme ça, mais ça l'a pas fait.
Ouais. Non. Ça n'a pas marché de ce côté-là. Par contre, effectivement, elle vous donne cette indépendance, elle vous donne cette force-là que vous avez, vous aussi. Et puis, je pense que on pourrait raconter beaucoup de choses aussi en parlant de sa silhouette. Il y a deux choses qui frappent. Oui. C'est à la fois le fait qu'elle boite, c'est une infirmité qu'elle a de naissance et qui fait qu'elle a été rejetée par ses parents, par ses sœurs, par tout le monde.
Oui.
Et en même temps, elle est modiste, elle a des doigts d'or, elle se fait des tenues incroyables. Elle
mais pas jolie, hein, pas élégante.
Ouais.
Elle pensait qu'elle était élégante, elle, mais c'était des grosses fleurs. Il y avait des grosses fleurs partout. Elle se faisait des costumes avec des grosses fleurs. Il y avait des rideaux avec des grosses fleurs. C'est formidable d'ailleurs. C'était pour mettre sûrement de la gaieté. Par contre, elle faisait des superbes chapeaux assez étonnants. Elle en a eu jusqu'au bout des chapeaux qu'elle faisait.
Et dans vos yeux de petite fille, quand vous voyez cette femme avec ses tenues incroyables et qui boite marcher dans la rue, vous vous dites quoi? Vous êtes...
J'avais honte. Ouais. Moi, j'avais honte. J'avais honte et je voulais me la garder pour moi toute seule parce que je l'adorais, je l'aimais, mais je ressentais justement, ça fait partie du regard. J'avais compris très 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 vite, surtout en étant en pension avec le petit uniforme, les parents, ils étaient pas pareils. Je veux dire, j'ai compris très 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 vite qu'on n'était pas comme les autres. Mais par contre, je l'adorais.
Alors face à la Berthe, il y a le Riri. Riri le cyclope, œil éborgné dans une bagarre qu'il a voulu scotériser lui-même puisqu'il était forgeron. Riri effrayant, Riri alcoolique, Riri violent. Avec sa femme, avec vous, jamais. Vous avez été, écrivez-vous, conditionné pour le détester. Malgré tout, vous l'aimez. Qu'est-ce que vous aimez chez lui, chez ce père-là?
Je l'ai aimé plus tard. Hein.
Vous avez des souvenirs de moments avec lui qui sont très particuliers pour une petite fille de votre âge. Je vous laisse raconter.
C'est très particulier parce que j'aimais ces moments où il m'apprenait à faire les danses russes, à faire le pont. Et comme il était très très physique et
c'est un ancien gymnaste, hein.
Mais pas professionnel. C'était comme beaucoup de jeunes hommes devaient faire à l'époque. Hein. Donc il faisait des barres parallèles et il était très très fier de que j'ai pris sa souplesse et donc il a été content de me voir faire tout ce qu'il me montrait. Et puis quand on allait dans les bistrots, c'était pas pour faire la manche, hein. c'était juste pour montrer que sa fille, elle savait faire le pont, qu'elle savait chanter, on me mettait sur la table et puis moi j'étais très 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 contente. Donc il y a eu ce rapport là avec le mélange de trouille, puisque ma maman m'en parlait autrement. La Berthe, elle m'en parlait évidemment autrement. Donc, il y a un mélange. Mais j'étais heureuse d'être dans ses yeux, enfin dans son œil, puisqu'il n'y en avait plus qu'un. Il y avait quelque chose où je sentais qu'il était très, très, très fier de moi. Et ça devait sûrement. Mais j'en avais peur. Pour toute l'enfance, j'ai pas eu le droit de l'aimer quelque part. J'ai pas eu le droit de l'aimer. C'est plus tard, bien plus tard, quand il était parti et en vieillissant, où je suis plus que je comprends tellement. Mais vous imaginez mon grand-père, donc, qui a travaillé à 9 ans, lui à 12, mes frères à 14 et moi à 16. Je veux dire, quand on repense à tout ça, on regarde les choses autrement.
Bien sûr.
Ouais.
Alors il vous emmenait, entre autres choses, pas seulement dans les bars, hein, mais au cinéma. Il était un grand fan de cinéma, les polars, les films d'action en particulier, les yeux écarquillés, les oreilles grandes ouvertes, vous avaliez de la pellicule et tous les deux, vous écoutiez Bouche Bée et dit Constantine chanter.
Pense à l'amour, Gina, il vient un jour, Gina, mais cet amour prends-le dans tes bras, de peur qu'il ne soit qu'un rêve.
Gina, chanson du film Ça va barder, film d'un certain John Barry avec qui le hasard est dingue, hein, vous marierez des années plus tard, avec qui vous vivrez 15 ans d'amour aussi fou qu'épuisant, écrivez-vous. Mais la petite Myriam, ça évidemment, elle ne peut pas s'en douter une seconde, on est en plein milieu des années 50. Vous rêvez à quoi? Vous rêvez de cinéma?
Non, on allait au cinéma. Non, j'ai jamais rêvé de... On pouvait pas. C'était, ça appartenait, ça faisait partie de quelque chose que vous pouviez pas toucher, quoi. Hein. C'est, mais c'est vrai que avec ma petite pièce, j'adorais aller à Saint-Bruno voir les films. C'était très populaire, hein, vraiment. Ah oui. J'ai vu Sissi, j'ai vu les Constantines, j'ai vu les 10 commandements. Enfin vraiment, on se nourrissait. C'était pas cher. Hein, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait faire. Et puis après, je rentrais et je racontais tout le film à la Berthe qui était en train de repasser pour que je puisse emmener ma valise pour repartir en pension. Mais c'est des moments, c'est assez extraordinaire quand vous dites, après, quand j'ai rencontré John Barry.
C'est et vraiment fou, ouais.
C'est étonnant. Ça, c'est...
Alors, étonnant. On n'en est pas encore là. Ouais. quelques années après, vous arrêtez l'école après avoir raté votre brevet, il faut aider votre mère, il faut bosser, donc vous faites pas mal de petits boulots, vous êtes dactylo chez Peugeot, vous travaillez dans les assurances et puis dans une bijouterie, et c'est là que se produit l'accident qui fait basculer votre vie.
Oui.
Comment ?
Comme j'étais rentrée dans ce théâtre par hasard, je traînais comme ça, Grande Rue de la Croix-Rousse, et puis il y a un théâtre qui s'appelait le Théâtre de la Croix-Rousse. J'ai poussé la porte et puis j'ai rencontré cette femme, Gisèle Tavec, qui m'a dit « Vous cherchez quelqu'un ?» J'ai dit « Ben non, je regarde. » Elle m'a dit « Vous voulez venir prendre des cours d'expression corporelle ?» J'avais jamais entendu ça. J'ai dit « Ben, je sais pas, mais je peux pas, de toute façon, j'ai pas de sous. » Elle m'a dit « Ben, on va s'arranger. Venez voir. » Je suis rentrée, je suis revenue, et là, alors là, j'ai compris que par contre, ouais. C'était un endroit où j'avais jamais connu, et puis je crois que je suis encore là, quoi.
Oui, depuis ce jour-là, je suis encore là. Vous abreuvez de textes, d'idées, du décor, de la lumière, de tout. Vous dites, au fond, là, dans ce théâtre-là, on m'a autorisé à rêver. Le rêve vous pousse jusqu'au Conservatoire de Lyon, dont vous sortez premier prix, et puis jusqu'à la rue Blanche, à Paris. Entre-temps, vous êtes mariée, Myriam Boyer, vous tombez enceinte, vous devenez mère à même pas 20 ans. Fallait aller si vite?
Ah oui, mais je crois que tout était normal.
Ah oui,
je voulais, je crois que il fallait aller tout, je voulais tout, bon, je me mariais aussi pour, j'étais pas majeure, hein, donc c'est aussi pour pouvoir faire ce que je veux. mais en même temps, j'étais très amoureuse et puis je trouvais que j'avais envie d'un môme, hein, il est pas tombé non plus. Je me suis mariée à 18, j'étais enceinte à 19, je l'ai eu à 20. Je veux dire que j'ai quand même, c'était pas comme à l'époque, faut se marier pour réparer le truc horrible, le mot horrible. Les copines, c'était ça, hein. Fallait se marier pour réparer. Non, là, je me suis mariée. Tout fait dans l'ordre. Hein.
Ouais. Tout fait dans l'ordre, mais très très vite.
très vite. Et tout était évident. Tout était évident. Clovis faisait vraiment partie de moi. C'était comme si on m'avait greffé un bras de plus, une jambe de plus. C'était vraiment pas un problème, pas un problème.
Alors, à Paris, des problèmes, vous en connaissez quelques-uns, en tout cas matériels. Faut gagner votre vie, votre acteur de mari cultivant, on va dire, un certain élitisme théâtral, hein,
voilà.
En refusant de se compromettre et donc ne gagnant pas un copec. C'est à vous de cachetonner. Alors vous prenez le petit Clovis sous le bras et le métro, direction le 19e. Vous laissez Clovis dans un bar, à son tour, sous la bonne garde de la Tolière. Vous poussez la porte des studios des Buttes-Chaumont et vous vous mettez à arpenter ce qu'on appelle à l'époque le couloir de la honte. Mais qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, alors comme je dis tout le temps, c'est pas moi, parce qu'on pourrait se dire j'appelle ça le couloir de la honte, alors que c'était connu. Le couloir de la honte était connu, on travaillait comme ça. Hein. Les acteurs, ils allaient à l'ORTF. Et c'était un couloir où il y avait tous les réalisateurs avec à l'intérieur de chaque bureau un assistant, et puis on faisait la queue, et puis on rentrait dans le bureau, on déposait une photo et on repartait. Et alors si vous aviez un pneumatique ou on vous rappelait, si vous aviez le téléphone, c'était moi j'étais aux anges. Et la première fois où vraiment ça a été plus important, parce qu'avant c'était, on était payé à la ligne, donc j'ai fait une ligne, deux lignes, trois lignes, j'ai vraiment commencé comme ça, mais j'ai eu des rôles formidable au fur et à mesure, et je suis vraiment rentrée par cette porte là et une fois je suis rentrée et l'assistant m'a dit bougez pas, et il a pris son téléphone et il a appelé Agnès Varda. Et il dit, Agnès, écoute, là, j'ai une môme, il faut vraiment que tu la vois. Et tout de suite, j'ai traversé Paris, je suis allée rue Daguerre, et là, ça a
vous
été...
Vous l'avez rencontrée.
Voilà.
Et à l'époque, Agnès Varda, c'était ça.
C'est donc si grave.
J'ai vu le cancer, elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerais.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime.
C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix.
Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser.
C'est un cri d'amour.
Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me devrais...
Je t'interdis.
Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air. Je suis une mère.
À 7, film de 62. Varda s'est déjà taillé une place à part dans le cinéma français. Quand vous, vous la rencontrez en étant 7 ans plus tard, en 69, et elle vous a, dites-vous, montré le chemin, mais lequel ?
C'était parce que c'était une des seules qui elle m'a tout raconté de sa vie. On a eu cette occasion et elle me parlait qu'elle était la première conservatrice dans les musées. Mmh. Elle était la première femme à réaliser de cette façon-là, photographe au TNP. Et moi, je me suis dit c'est ce que j'ai envie de faire. Il y avait une indépendance, une manière, une intelligence extraordinaire. Elle était très 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 cultivée et justement pas méprisante. Et elle m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup appris en me mettant, en me faisant rencontrer tout finalement. Tout.
On est à l'époque au premier soubresaut de ce qui va s'appeler le MLF. C'est Varda qui, dans ce contexte-là, vous donne une conscience féministe.
Ah oui. Oui, c'est-à-dire que c'était, on a eu l'occasion donc de partir en Autriche et de faire un spectacle qu'elle avait écrit où je chantais, je jouais, je dansais et elle avait tout écrit et on était toutes les deux en Autriche et c'était un spectacle féministe. Mm-hmm. Et donc c'est à ce moment-là donc j'ai tout découvert vraiment et de la manière artistique quand vous êtes dans un discours artistique pour découvrir tout ça, mais ça a une force extraordinaire. Mais en même temps, j'ai jamais pu adhérer au MLF.
Vous n'avez jamais pris votre carte ?
Non, n'importe où. Non, non.
L'indépendance toujours.
Non, ouais. J'étais toujours oui. J'étais toujours. je soutiens, mais c'est vrai que ouais. J'ai un problème, justement, peut-être, voilà.
Avec l'encartement, on va dire ça comme ça.
Voilà.
Alors, à côtoyer Varda, et avec elle, toutes ces féministes que vous croisez à l'époque, vous prenez conscience que non, vous tapez tout le boulot toute seule à la maison et filez tous vos cachets à votre mari, en fait, ça va pas pouvoir durer. Donc, vous vous tirez, vous taillez votre route, toujours le petit Clovis sous le bras, même pas peur, avec dans votre dos le regard de celle qui a eu tant de mal à vous laisser partir, celle qui pensait que vous montiez à Paris pour vous prostituer, celle à qui vous n'avez eu de cesse de prouver que oui, vous vous en sortiriez.
Juste d'avoir mes 14 ans, je veux plus d'école, je suis devenu grand. Je te promets, je te gagne plein d'argent. Maman, je viens de fumer ma toute première week-end sur les fortifs où t'aimes pas que je traîne. Je me serais tué plutôt que de refuser. Y'a pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Maman, j'aimerais chanter tous ceux qui ressentent les autres. Ta vie, la nôtre, m'en veut pas. Mais maintenant j'ai choisi. Les tours jours, c'est pas toujours de ghetto. J'ai pas de passion pour les oiseaux, mais comme j'aimerais voir ça d'en haut. Je comprends mieux le regard des passants. Je vois pas comme eux, je pense tout en grand, en couleur et sur un écran blanc. Ah. Y a pas que les mères qui font les enfants. De la zone, la rue coule dans mon sang. Je sais pas grand chose sur les choses de l'amour, mais je me doute toujours. C'est pas moi, c'est pas moi qui choisis.
Eddie Mitchell sur France Inter, grâce à vous, Myriam Boyer. C'est pour ce titre-là en particulier, c'est pour le bonhomme tout entier, c'est pour la voix.
Alors, moi, c'est parce que Eddie m'a donné cette chanson pour le film qu'on a produit avec John, qui s'appelle Maldon, où Clovis tenait donc le rôle principal et jouait donc un voyou, quoi, de banlieue. Et j'ai demandé à Eddie de faire la musique, et quand il m'a donné cette chanson, c'était donc elle n'était pas connue, hein, et c'était sur le papier. Je me suis dit, quel cadeau extraordinaire, mais ça,
c'était taillé pour vous en plus. Hein.
Donc j'aime bien la faire entendre.
Avec ce titre, on prend le virage des années 80 dans votre sillage, Myriam Boyer, les deux pieds au théâtre, la tête au cinéma, une silhouette qui peu à peu se dessine dans sa fragilité, sa puissance, sa singularité.
France Inter, unique en son genre.
Peu à peu, vous taillez vous aussi votre place dans le métier. Il y a du Sautet, Vincent, François, Paul et les autres. Et puis il y a Série Noire d'Alain Corneau, le cinéma vous fait de l'œil. Mais c'est le théâtre qui vous rattrape. On est à la toute fin des années 70. Patrice Chéreau prend ses quartiers de l'autre côté du périphérique parisien. On est à Nanterre, dans ce qui deviendra l'incontournable théâtre des Amandiers. Vous y croisez la route d'un certain Bernard-Marie Coltès. Tout jeune auteur, il est interviewé par Frédéric Mitterrand qui, du côté de chez Fred, l'interroge sur l'importance du destin des personnages. Écoutez.
C'est-à-dire, si on raconte une histoire sur un plateau, si on prend cette peine de confier, si des acteurs prennent la peine de le jouer, il faut quand même que ce soit des vies qui ne soient pas ordinaires, ou même si elles sont ordinaires, il faut qu'elles soient extraordinaires par le regard qu'on porte dessus. Donc le destin, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre un personnage sur un plateau qui n'est pas un destin, et ça je crois.
Vous vous dites quoi quand vous l'entendez, Myriam Boyer ?
J'ai une grande tendresse. C'est quelqu'un qui m'a marqué. Puis j'ai fait trois pièces, enfin j'ai dont deux créations, Combat de nègres et de chiens, puis Roberto Zucco. Puis après j'ai joué aussi Le Retour au désert. Donc c'est quelqu'un qui a marqué le théâtre. Hein. Il y a un avant et un après. Patrice Chéreau, quand on a commencé la première fois où on a joué Coltès, on savait pas où on allait. C'était pas.
Si vous le prenez pour un petit stagiaire, quoi.
Ah ben moi je croyais qu'il était mignon.
Oui.
Qui était au bout de la table. Là, je me suis dit il est mignon le petit stagiaire. Et puis on m'a dit, c'est Coltès, il n'avait pas la tête à écrire. Non, c'était vraiment, ça a été un choc et une intelligence, alors celui-là aussi, mais incroyable. Et...
Vous dites, jamais plus personne m'a regardé, m'a autant aimé, ne m'a écouté comme ça, ne m'a autant apprécié, il m'a donné un élan et une assurance.
Oui, parce que j'avais pas vraiment fait de théâtre. J'avais fait du théâtre un peu, j'avais joué. Enfin, j'ai commencé au théâtre, mais très très peu. C'est la télé justement.
Mais qu'est-ce qui vous rapproche de lui, de son univers, de ses textes au fond ? Parce que il vient d'un monde très très différent du vôtre, du milieu.
Complètement. Mais alors complètement.
C'est la bourgeoisie.
Mais par contre, les personnages.
Ah.
Alors les personnages, chaque fois qu'il décrit des personnages, il y a beaucoup de personnages qui viennent de vraiment d'où je viens, quoi. Et c'est ma chance. c'est ma chance. Parce que franchement, tout ce que j'ai joué, moi, c'est vraiment des... Ma Solange, là, dans Combat de Nègres et de Chiens, c'est une petite boniche qui débarque en Afrique et qui est complètement perdue. Et elle vient vraiment de nulle part. Ce que j'aimais avec lui... Quand on parlait, c'est que son côté féminin, n'ayant pas peur, il y avait quelque chose où j'ai l'impression qu'il se racontait beaucoup plus dans les rôles de femmes. Mmh. Et il y avait quelque chose qu'on partageait comme si on avait vécu les mêmes histoires d'amour, les mêmes histoires dans la vie. On était quand même un petit peu fleur bleue tous les deux. Mais c'était pas ce qu'il racontait, hein. Mais les personnages étaient quand même nourris de ça. Il y avait quelque chose comme ça où on était un peu très, 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 très proche. Il aimait Tintin. C'est pas l'intello quand on l'entend, on croit que. Mais dans la vie, c'était quelqu'un d'une simplicité, mais incroyable.
Avec lui, avec ses textes, vous mettez à incarner ces personnages troubles, inquiétants, étranges, bizarres que d'autres actrices auraient pu refuser parce que ça dérange, parce que ça effraie. Vous vous dites, je les aime ces personnages-là, oui. Je les chéris plus que tous ceux qui sont au bord de la folie. Pourquoi ?
Oui, 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 tous ceux qui sont un peu cabossés, un peu
pour les sauver.
Dans la vie, c'était pareil. J'aime bien les défendre, et même si ils sont indéfendables parfois, mais justement, on a un métier extraordinaire pour ça. On peut aller chercher des choses qu'on pourrait pas dans la vie, quoi. C'est pas possible.
Vous dites les gens, les femmes, évidemment, en particulier. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à défendre ces personnages de femmes là qui sont cabossés, qui sont si fragiles, qui sont parfois indéfendables.
Souvent, on nous mélange la comédienne avec ce que vous êtes dans la vie. Les gens croient que vous êtes ce que vous représentez à l'écran. Ils se trompent souvent. D'ailleurs, on parle souvent d'un acteur, mais souvent, moi, je me dis, mais non, c'est les rôles, c'est pas lui. Lui, quand je l'ai connu, c'est pas ça du tout. Et donc, Coltès, c'était pareil. C'était ce qu'il écrivait, mais dans la vie, c'était le contraire. Quand on vous dit aussi, par exemple, de Funès, où il n'était pas drôle dans la vie, moi, je crois que quand on joue des rôles comme moi, c'est le contraire. On est très marrant dans la vie. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, je crois que vous, quand vous jouez des rôles comme ça, vous lâchez prise.
Oui, c'est pas vous, mais les cabossés, vous les avez connus. Vous les avez côtoyés. C'est-à-dire que c'est encore une façon de leur rendre hommage, de les réhabiliter.
Et puis, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui peux les faire.
Alors, quand Bertrand Blier vous propose en 93 de jouer la mère infantile et asphyxiante d'Anne Grimbert dans 1, 2, 3 Soleil, vous dites oui, sans hésiter.
Mais moi, ça me fait très plaisir de t'accompagner à l'école.
Mais arrête, merde, te fais chier, merde!
Je t'accompagne à l'école.
Oui, ben moi, j'y vais pas à l'école.
Je t'accompagne quand même.
Mais, puisque je t'ai dit que j'y vais pas, regarde, j'ai derrière toi.
Eh ben moi, je continue.
Victorine est punie. Victorine a manqué de respect à sa maman et sa maman a beaucoup de chagrin. Chagrin. C-H-A-G-R-I-N. Et j'en connais d'autres des mots.
Alors, vous riez, vous délectez, et on se délecte avec vous, mais il était rude ce tournage. Vous racontez que Bertrand Blier vous fait refaire des dizaines de fois la même prise devant tout le plateau. Il fait monter les rivalités entre Anouk Grimbert et vous. Vous êtes parfois au bord des larmes, mais toujours vous les ravalez. Ce milieu que vous décrivez, Myriam Boyer, il est par endroits extrêmement violent. Mais vous, vous êtes quoi? Vous êtes fait d'un matériau qui résiste à tout, c'est ça?
Oui, d'ailleurs, je dis souvent, j'ai un gilet pare-balles, mais j'en ai trois couches de gilet pare-balles depuis longtemps. J'ai l'impression vraiment qu'on peut y aller.
La violence, ça ne vous fait pas peur.
C'est bon, je tiens, je suis là, je suis debout. Et puis, ça vaut le coup quand vous entendez, quand vous entendez du Bertrand Blier, de dire le texte de Bertrand, ça vaut le coup de tenir.
Ouais. Vous parlez de ces metteurs en scène, et notamment Sautet, par exemple, qui crie toujours très fort. Vous dites, moi les cris, ça me fait pas peur, parce que la vraie violence, je la connais.
Oui, c'est ça? Oui, la vraie violence, comme je l'ai connue, on peut pas m'impressionner avec ça. Ça, c'est pas possible. Et puis sur un plateau, en plus, ça n'a pas de sens. Bah oui, c'est là. Bah, pour moi, c'est le bonheur. Donc, c'est pas un endroit. Si ça gueule, c'est dommage pour eux. Moi, intérieurement, je suis contente d'être là.
Alors, cette violence-là du métier d'acteur, vous l'avez connue à son apogée dans les années 90 avec Qui a peur de Virginia Woolf. Vous partagez au théâtre l'affiche avec Nils Arestrup. Je vais essayer de résumer, mais c'est très compliqué de résumer parce que c'est une affaire extrêmement complexe et longue aussi. Mais bref, vous devez jouer l'un et l'autre la violence conjugale. Et Nils Arestrup ne le joue que trop bien, verbalement et physiquement. On va dire ça comme ça. Et vous aussi. Mais vous rebiffez encore une fois, vous n'avez pas peur, vous résistez, ça ne lui plaît pas. Et la tension monte de représentation en représentation. Vous finissez par être convoqué par la direction du théâtre qui vous demande de signer votre envoi, à vous, hein, pour faute lourde. Il vous fallait donc reconnaître des fautes. Là, vous attaquez au prud'homme, là, vous gagnez. Aujourd'hui, on est près de 20 ans après. Qu'est-ce qu'il reste de cette histoire-là? En quoi est-ce qu'elle a marqué la femme et l'actrice que vous êtes?
Je crois qu'il ne peut pas vous arriver pire cauchemar. Hein, parce que justement, je viens de vous dire que je suis, quoi qu'il arrive, je suis heureuse. J'ai rien vu. Je vous assure que j'ai rien vu sur le plateau. C'est après que je me suis dit, oui, c'est vrai que c'était pas facile. Et quand j'en ai parlé avec le directeur, il a dit, vous êtes jamais venu vous plaindre. Moi, ça me viendrait pas l'idée de venir me plaindre. Et c'est vrai que peut-être j'aurais dû dire que qu'il se passait des choses sur le plateau qui étaient pas normales. Mais bon, c'était comme ça. Ce qu'il y a, c'est que ça m'a marqué et ça m'a changé. Et ça, c'est bien
en
dommage. Parce que avant, j'étais quelqu'un partante, comme je dis toujours, hein, mon mot que j'aime beaucoup.
Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que c'est très joli quand même.
Oui, c'était quand j'étais gamine, j'étais dans les des aériums et on avait des uniformes, on arrivait, on était en quarantaine dans un premier temps, parce qu'il y avait à l'époque tuberculose, etc. Donc c'est tous mes revenus d'ailleurs pendant le confinement et le dernier jour avant de partir de rentrer à la maison, quand le séjour était terminé, on nous mettait la robe, notre robe avec laquelle on était arrivé. Et là, sur le cintre, toute la nuit, je regardais ma belle robe que j'allais mettre. Et on était partante. On nous disait, voilà, Myriam Boyer, vous êtes partante. Machine, vous êtes partante. On n'était pas beaucoup. Sur une centaine de gamines, le jour où on partait, on était 4-5, c'est tout. Donc, on était 4-5 partantes avec notre habit. On n'était plus en uniforme et j'ai toujours regardé mon costume en loge en me disant quand je rentre en scène, je suis partante. Je regarde mon costume comme quand j'étais gamine.
C'était la liberté, quoi.
Oui, et c'est une force formidable, quoi. Ça y est, je suis partante, je suis pas comme les autres.
Et ça a été cassé.
Et là,
cette histoire.
Et alors ça, voilà, j'étais toujours partante, et ça m'a cassée. C'est-à-dire que je me suis retrouvée j'ai rien vu arriver. Ils ont répété dans mon dos pour reprendre la pièce tout de suite derrière. Je n'ai rien vu, et je me suis sentie trahie de partout par les partenaires, les camarades, le théâtre. Je savais pas qu'on pouvait vivre quelque chose comme ça. Et à la 54e représentation, quand vous êtes en plein succès et on vous dit dehors, et que vous avez supporté de l'insupportable sur scène, donc c'est vraiment quelque chose qui vous marque à jamais. Et chaque répétition, chaque 54e représentation, j'ai une bouffée de tristesse et de me dire que je suis abîmée. Je suis abîmée comme un trauma. C'est un trauma, je suis abîmée. Oui.
Alors à vous entendre et à vous lire aussi, on ne peut pas s'empêcher de tracer un parallèle avec toutes les femmes qui portent plainte pour violence. Hein, ce sont elles qu'on isole. Vous vous êtes retrouvées isolées dans le métier, à part Adjani et Miu Miu qui vous ont apporté leur soutien, qui ont dit...
qui avaient vécu la même chose avec la même personne.
C'est ça. Ce sont elles qu'on isole, ce sont elles qu'on accuse d'avoir fauté, puisqu'il vous fallait signer un document disant que vous aviez commis des fautes lourdes. Je me demandais, quel regard est-ce que vous portez sur la jeune génération d'actrices, celle qui dit stop, sur les jeunes femmes là qui ont lancé le mouvement MeToo il y a 3 ans, sur cette espèce de vague-là, de prise de parole qui est un gigantesque stop.
Oui.
On arrête. On arrête ça, les violences sexuelles, les mauvais traitements, etc. Quel regard est-ce que vous portez sur elles?
Justement, c'est le stop. C'est le stop qui a été énorme et j'en suis persuadée. Je pense à mes petites filles qui ont 20 ans et je suis sûre que c'est pas possible de vivre des moments comme ça. Je crois qu'elles vont dire stop et elles attendront pas qu'il se passe quelque chose. Je crois que on dit toujours la première gifle. Hein, on dit toujours qu'il faut jamais supporter la première gifle. Mais moi c'était pas ça. Hein, c'était pas du tout à ce niveau-là sur le plateau. Ça n'a rien à voir. Je parle là maintenant dans la vie, je parle pour les autres femmes et je pense plus à ma mère. Et ma mère, elle a jamais supporté, même pendant 16 ans. Elle s'est rebiffée, c'est pour ça que c'était d'autant plus violent. Mais il fallait partir. Et là, maintenant, je crois que les femmes, elles partiront plus et elles diront stop.
Je les regarde, ils sont toutes oui, là derrière la vitre à la technique ce soir. Vincent Dezière à la réalisation, Marianne Écrimbeau, attachée de production, Ophélie Vivier. Dit comme ça, ça a l'air d'être la fin. Pas du tout. Certainty, Big Thief, et comme chaque semaine, c'est Djoubaka qui assure la programmation musicale de cette émission. Vous en retrouverez bien évidemment toutes les références sur franceinter.fr à la page d'Unique en son genre, exactement à l'endroit où vous pouvez nous podcaster, et ce, sans aucune modération.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Bien, et maintenant, j'ai la grande joie de vous annoncer qu'il est l'heure d'ouvrir notre labo du genre, ce drôle d'endroit où se rencontrent une paire de bottes et des jeans à trous, des aiguilles à tricoter et des ouïes de violoncelle tatouées, un pot de confiture et même quelques DVD. Tous ces objets que nos invités viennent déposer chaque semaine dans notre labo qui raconte ce qui font d'eux les femmes et les hommes qu'ils sont aujourd'hui. Myriam Boyer, qu'est-ce que vous déposez à votre tour dans notre labo du genre, s'il vous plaît?
Je dépose une brosse à cheveux.
Ah, qui est là dans votre sac?
Qui est là dans mon sac. Parce que vous m'avez demandé quelque chose, enfin je ne sais pas exactement le mot.
Qui raconte votre façon d'être femme ou qui vous a construite comme
voilà,
femme.
Voilà, alors elle m'a construite il n'y a pas longtemps, cette brosse à cheveux. C'est depuis le confinement. Ouais. J'ai laissé pousser mes cheveux et puis je me suis aperçue que c'était un plaisir immense.
C'est vrai?
Oui.
Vous les aviez jamais eu longs?
Non, pas comme ça. Je profite de mes cheveux, en plus, à plus de 70 ans, de pas avoir de cheveux blancs, de pas avoir de teinture.
C'est complètement fou,
tout d'un
ça.
Coup. Mais je veux en profiter un maximum. Ouais. Et j'adore les brosser. J'adore, je les vis. Je vis mes cheveux. Et c'est extraordinaire parce que ça m'est jamais arrivé.
Mais est-ce que ça veut dire que de façon plus globale, vous investissez plus votre corps aussi?
Non, les cheveux.
Alors, je me suis demandé en préparant l'émission si vous ne l'oublieriez pas en cours de route ou vous ne la perdriez pas, cette brosse, parce que vous ouvrez votre livre là-dessus sur tous les objets que vous avez perdus. Alors, oui, je crois avoir compris la différence, c'est-à-dire qu'un objet, quand il a beaucoup de valeur, vous le perdez. Une brosse, aussi pratique soit-elle, éventuellement, vous pouvez la garder. C'est ça l'idée ?
La preuve.
Vous l'avez
la preuve, elle est là.
Qu'est-ce que c'est que cette manie de perdre tout ?
Ah non, mais ça, c'est même pas une manie, c'est triste. Hein. C'est, ouais. Je m'en suis aperçue au moment où j'ai écrit le livre en me disant, mais c'est pas possible de comme ça, de perdre, d'être volée, d'être... Je ne comprends pas. À tel point, c'est vrai que j'ai la trouille quand on m'offre quelque chose de valeur, je me dis, non, mais ça loupe pas. Hein.
Mais sans vouloir faire de... psychologie de comptoir, vous êtes posé la question très profondément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous méritez pas ?
Non.
Ça veut dire qu'il
y a aucune raison. C'est vraiment le hasard, c'est la vie, il y a aucune raison. Franchement, je fais attention, mais eh bien, ça se passe. Ça se passe, j'ai plus. Et tout ce qu'on m'a offert, et je me souviens bien, c'est important pour moi. Alors, comme des choses pas très importantes, mais surtout les choses importantes, eh bien, je les ai plus.
J'ai une dernière question, parce qu'évidemment, on est dans unique en son genre, donc le féminin, le masculin, c'est notre matière première et on se régale avec ça. Quand je vous demande un objet qui vous construit, qui vous raconte comme femme, je pense instantanément à un chapitre de votre livre où vous dites que, petite, vous voyez vos frères évoluer et vous disiez qu'être un garçon c'était quand même un peu plus enviable que d'être une fille.
Moi j'ai rêvé d'être un garçon toute mon enfance, alors que je me conduisais pas en garçon. J'étais pas
garçon manqué.
Ouais, il y en a plein des filles qui ont voulu être, moi pas du tout, mais je rêvais, je me disais mais pourquoi la Berthe elle a pas fait un troisième garçon, parce que justement c'est pour ça que j'aime aussi le texte de Coltès, parce que on pourrait raconter des histoires, on pourrait s'amuser, j'avais l'impression que leur monde était libre et pas le mien. Et c'était vrai qu'à l'époque, on n'élevait pas une fille comme un garçon. Donc il y avait quand même beaucoup d'interdits, alors qu'ils avaient une liberté folle dans tout. Hein.
Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où vous écrivez ce livre, vous faites le point sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes devenue comme actrice, comme femme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites non, mais en fait, je suis heureuse d'être une femme, ou est-ce qu'il y a quand même un regret ?
Il y a pas de regret, mais il y a quand même. Je suis persuadée que si j'avais été un homme comédien, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans mon travail. J'ai sûrement pas eu les rôles qu'un homme peut avoir. Et puis vu la vie qu'une femme. Ne serait-ce que parce qu'il faut passer par la séduction. Alors vous allez me dire, les acteurs sont un peu féminins de ce côté-là, il y a quand même... Mais non, c'est pas pareil. Justement, c'est pas pareil. On était quand même pris dans le piège de... Il fallait séduire pour pouvoir travailler quelque part. Alors que je me disais, si j'étais un homme, j'aurais eu d'autres propositions et j'aurais pu aller beaucoup plus loin et jouer sûrement des personnages au-delà de ce que j'ai pu faire, parce que c'était réduit. C'est quand même réduit à un endroit, même quand vous faites les plus beaux. Hein. Même la vie devant soi, même au théâtre, les plus beaux. J'aurais bien aimé faire du gamin, quoi.
Alors, vous allez faire du Myriam Boyer dans quelques secondes. Cette bronze va aller rejoindre ses camarades de jeu dans notre labo du genre. Merci infiniment de nous la léguer, même virtuellement. Théâtre de ma vie, votre livre est aux éditions du Seuil. On y trouve quelques mots de Bernard-Marie Coltès, justement, que vous nous faites l'immense plaisir de nous lire ce soir. C'est un extrait de Retour au désert. C'est le monologue de Mathilde. C'est parfaitement raccord avec ce qu'on était en train de se dire. Et c'est quand vous voulez, Myriam Boyer.
Les femmes devraient accoucher de cailloux. Un caillou ne gêne personne. On le recueille délicatement, on le pose dans un coin du jardin, on l'oublie. Les cailloux devraient accoucher des arbres. L'arbre accoucherait d'un oiseau, l'oiseau d'un étang, des étangs sortiraient les loups, et les louves accoucheraient et allaiteraient des bébés humains. Je n'étais pas faite pour être une femme.
Allez, accouchons de cailloux, semons-les, retrouvons-nous. Merci encore mille fois, Myriam Boyer. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup.